Juste une petite histoire qui m'a beaucoup touché. Juste avant les vacances d'été à Paris, nous travaillons avec... Vous savez qu'en France se trouve la plus grande communauté juive de l'Europe. Il y a plus de juifs en France que dans n'importe quel pays. Mais aussi, c'est la plus grande population musulmane. Il y a 7 millions de musulmans en France. Et donc, il est tout à fait naturel que quand Idir, un pasteur d'origine algérienne musulmane, m'a demandé de lui prêter nos locaux de Juifs pour Jésus. Les jours qu'on ne l'utilise pas, c'était avec joie. Idir est un cher frère et Idir est passionné pour l'évangélisation et il va dans les rues de Paris avec une table, un stand, librairie, comptoir, etc., etc. Et un jour s'approche de lui Michael Cohen, que vous avez là en jaune. Et Michael lui demande ce que c'est. Idir lui explique, il dit « Ah non, ce n'est pas pour moi, je suis juif ». Et Idir lui a dit, écoutez, ce n'était pas pour moi non plus, j'étais musulman, et pour nous, c'est interdit ça. Il a dit, non, vous ne comprenez pas, les juifs et Jésus, ça ne va pas ensemble, les juifs ne sont pas pour Jésus. Idir a dit, attends, je connais, j'ai des amis qui s'appellent Juifs pour Jésus. Donc, il l'a amené au bureau, et nous avons lu Ésaïe chapitre 53 ensemble. Et quand il a commencé à lire, il a commencé à pleurer. Et ce jour-là, Michael Cohen a donné sa vie au Seigneur. Et ce même jour est passé au bureau une dame qui s'appelle Samia, parce que nous avons aussi devant notre bureau une librairie comptoir avec quelques livres intéressants en hébreu, en anglais, en français. Et Samia était là, elle feuilletait, je sors, et je lui ai dit, est-ce que vous vous intéressez à ces livres? Elle a dit, non, c'est juste que je suis musulmane et j'ai une vision de Jésus. Et je me suis dit, qui mieux pour me renseigner sur Jésus si ce n'en sont pas les Juifs? Donc je suis venu vous voir, vous les Juifs, pour que vous me parliez de Jésus. Et donc il se trouve que Idir était encore de passage, donc je lui ai présenté Samia, et Idir a eu la même expérience que Samia, et donc Idir et Samia a commencé à aller à l'assemblée d'Idir, et là à droite vous voyez que Idir est en train de baptiser Samia. Donc je trouve ça merveilleux que le Seigneur ait utilisé Idir pour nous amener quelqu'un, un Juif qui devait rencontrer son Messie. Et le Seigneur nous a amené Samia pour pouvoir rencontrer Idir. Merci Seigneur pour cela. Voilà, donc je suis très reconnaissant de parler de ce sujet aujourd'hui. Alors le sujet c'est le chrétien face à Israël, Israël et l'Église. Ce n'est pas un thème qui m'est demandé souvent. Avant on me demandait souvent ce thème et ça fait quelques années que je n'ai pas touché un peu ce passage et c'est un grand plaisir de voir. Donc je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles si vous les avez. On va lire Romains chapitre 11 et on va lire juste une quinzaine de versets. Peut-être que je vais le couper en deux. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous avez compris ? Eh bien, moi non, surtout la première fois que j'ai lu ce passage. Et peut-être qu'il faut comprendre un peu l'historicité de ce passage. Vous savez que l'apôtre Paul écrit à une église à laquelle il n'est jamais allé lui-même. Et il écrit cette épître, cette lettre, c'est une lettre, pour se présenter. Parce qu'il veut que cette église l'accueille, le soutienne. Parce que le cœur de Paul était d'être missionnaire, d'ouvrir la brèche là où l'Évangile n'avait pas été annoncé. Donc il écrit l'épître aux Romains parce qu'il veut aller en Espagne. Mais Paul sait profondément qu'en tant que missionnaire, il ne peut pas exercer son ministère sans église derrière lui. Et donc, il a écrit à cette église à Rome qui était l'un des proches de son champ missionnaire. Et comment est-ce qu'il a connu cette église? Parce qu'au début, il dit, au Romains chapitre 1, il a dit « Votre foi est connue dans le monde entier ». Eh bien, si vous vous souvenez, Aquile et Priscille, dans le livre des Actes, c'était des Juifs italiens, des Juifs de Rome. Et ils venaient de cette église. C'est certainement eux qui leur ont parlé de cette église, cette communauté. D'où vient cette communauté? Eh bien, ce sont des Juifs qui l'ont fondée. Vous vous souvenez de du premier message de l'apôtre Pierre quand il a prêché à la Pentecôte à Jérusalem. Il y avait 3000 Juifs qui ont accepté le Seigneur. Et on liste les pays d'origine de ces Juifs. Et il y a dans cette liste des Juifs romains. Donc ces Juifs romains qui ont reçu l'évangile à Jérusalem de la bouche de Pierre retournent à Rome, établissent une communauté. Et tout d'un coup, après quelques années, une division dans l'Église. Vous savez ce que c'est que des divisions. Malheureusement, beaucoup d'Églises se divisent pour maintes raisons. Mais la division de cette Église est très clairement documentée dans l'histoire. C'est l'empereur Claude, qui était un empereur païen, qui avait des besoins financiers, des problèmes financiers, et il a expulsé tous les Juifs d'Italie. Il disait, vous n'avez plus le droit de citer à Rome et en Italie, mais je garde vos biens. Et ça, c'est une histoire qui se répète malheureusement avec le peuple juif. Donc, du jour au lendemain, cette communauté, donc Aquile et Priscille dans le livre des Actes, étaient de ces exilés, ces déportés de leur maison, de leur foyer. Donc, du jour au lendemain, cette église, cette communauté, se trouve quasiment vidée de tous les juifs, des membres fondateurs de l'église, des amis très très chers, c'était certainement très douloureux, et ils commencent à se poser des questions. Plus tard, le temple allait être détruit dans l'année 70. Les problèmes du peuple juif sont évidents depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la vidéo qu'on a vue ensemble. En voyant ça, la réalité, les gens, les non-juifs, les chrétiens, se sont dit, mais peut-être le temps des juifs est fini. Dieu a certainement rejeté son peuple. Ça a tout l'air, en tout cas. Et l'apôtre Paul dit quelque chose qui est profond, qui vient de ses tripes. Dieu a-t-il abandonné son peuple? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est un texte difficile à traduire. Et si vous regardez vos traductions différentes, quand il dit « loin de là », c'est difficile à traduire. Mais moi, je ressens les tripes de Paul, parce qu'en Paul, il y avait une petite mère juive. Et ma mère juive, quand j'étais en Israël, je suis tombé amoureux d'une belle Danoise, au blond, aux yeux bleus, et ma mère a presque eu une crise cardiaque. Mon fils, avec toutes les belles femmes juives israéliennes, tu as trouvé la seule goy, chas v'chalila, jamais de la vie, loin de là, non. C'est ce que je ressens au texte de Paul ici. Mais il écrit avec l'autorité pastorale. Il écrit avec connaissance de cause en tant que juif, mais en tant que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et il dit, je vais non seulement vous dire Dieu n'a pas rejeté son peuple, je vais vous le prouver. Et il donne quelques exemples. Quels exemples donne-t-il? Il dit premièrement, je suis israélite, je suis juif. Et si Dieu a rejeté son peuple, qu'est-ce que je fais en train de témoigner et de annoncer l'évangile un peu partout dans le monde? Si Dieu a rejeté son peuple, je ne devrais pas être là. Il dit, il rappelle le problème d'Élie. Élie, le prophète, était l'un des seuls fidèles en Israël. En fait, il était l'un des seuls, mais il pensait être le seul. Les Juifs messianiques se sentent souvent seuls dans l'Église. Mais le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et quand Élie va au point de découragement, le découragement est terrible. Alors, j'y ai été. Quand on est découragé, on broie du noir. Mais la parole de Dieu vient à Élie et lui dit, non, tu n'es pas tout seul. Il y a 7000 genoux juifs qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et Paul dit de même aussi dans le temps présent, il y a ce chiffre symbolique, il y a 7000 genoux juifs qui ne fléchissent point devant autre nom que Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Paul dit de même aussi dans le temps présent. De quelle personne parle-t-il? Il y avait Jacques, le frère de Jésus, il y avait Pierre, les 12 apôtres, les 120 dans la chambre haute, les 3000, les 500 qui ont vu la résurrection, les 3000 qui ont accepté la prédication de Pierre. Et c'est écrit dans le livre des Actes que le Seigneur rajoutait des milliers de Juifs croyant en Jésus à l'Église. Mais de même aussi dans le temps présent, on veut dire autre chose. On veut dire, puisque la parole, si vous croyez que la parole est vraie, est pertinente, ça veut dire aussi aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y a un reste des Israélites selon le choix de Dieu, selon la grâce de Dieu. Et après, il dit quelque chose qui m'a fait tourner la tête un peu, la première fois que je l'ai lu, et 10 fois encore, c'est le verset 6. Donc il finit en disant, en verset 5, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et écoutez ce qu'il dit dans verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous avez suivi? Voilà, moi j'ai eu la même... De quoi est-ce qu'on parle ici? Je ne comprends pas du tout ça. Et en fait, je crois que l'apôtre lui-même, puisque je crois qu'il a écrit sous l'égide de l'Esprit-Saint, ne comprenait pas trop non plus. C'est pour ça qu'il a dû clarifier un peu sa pensée. Ce n'était pas un doc word, hein? On ne pouvait pas juste effacer en arrière. On est au 11e chapitre de l'une des plus grandes lettres du Nouveau Testament. Il ne va pas recommencer tout ce qu'il a écrit. Pour comprendre, je crois qu'il faut comprendre la vie de Paul. Il faut comprendre les textes dans le contexte de la personne qui l'a écrit, qui les a écrits. Eh bien, si vous vous souvenez, un survol de la vie de Paul, c'était quelqu'un d'extrêmement, extrêmement passionné pour son peuple, zélé pour son peuple, au point qu'il a persécuté les premiers juifs croyant en Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il aimait son peuple. Et il pensait que ces premiers juifs croyant en Jésus étaient un cancer qui menaçait le bien-être et la vie spirituelle d'Israël. Donc c'était son rôle d'être le défenseur. Je vous dis, il était une mère juive. Et il est allé jusqu'à Damas pour les persécuter. Et après, quand il a été radicalement transformé par le Messie d'Israël, qu'est-ce qui se passe ? Ce même zèle, le Seigneur l'a utilisé, l'a tourné, mais encore il avait à cœur pour les Juifs. Et qu'est-ce qui s'écrit dans le livre des Actes? Il est allé de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive. C'est écrit qu'il a passé des heures et des heures dans la synagogue à essayer de convaincre. Mais de synagogue en synagogue, de communauté en communauté, on lui a claqué la porte sous le nez. Et aujourd'hui encore, l'apôtre Paul reste dans la mémoire collective juive comme non pas le plus grand apôtre de tous les temps, mais comme le plus grand apostat de tous les temps. Et je crois qu'ici, et souvent les gens me disent, ah c'est bien Josué que tu es avec Juifs pour Jésus, que tu arrives à voir les Juifs. C'est bien, tu parles hébreu, tu connais le judaïsme, tu as entre Juifs, vous pouvez témoigner. Et moi je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Paul? Pourquoi est-ce qu'il a été si inefficace? Qui était mieux? Qui, avec quelle éloquence? Quelle connaissance du judaïsme de l'intérieur? Il a étudié, je sais peut-être que vous ne connaissez pas les noms des rabbins que Paul mentionne, mais il a étudié sous l'égide, sous les écoles les plus grandes de l'époque. Pourquoi pas Paul? Eh bien, je crois qu'ici, l'apôtre reconnaît que ce n'est pas par l'éloquence de Paul, ce n'est pas par la connaissance du judaïsme de Paul, ce n'est pas par son hébraïsme, ce n'est pas par l'œuvre de Paul que les Juifs ou n'importe qui va venir au Seigneur, ce n'est pas par l'œuvre, mais par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous venons au Seigneur, tous. Et dans sa grâce, Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'aime pas choisir les choses évidentes. Et on va regarder qui est-ce que Dieu a choisi. Verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché ?» Il parle des Juifs. « Est-ce que les Juifs sont tombés pour à tout jamais ?» Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? » Alors je vais vous paraphraser ça. Okay. Ce que Paul a dit, c'est que l'évangile est venu aux Juifs, une partie l'ont accepté, mais la grosse majorité ne l'ont pas accepté. Mais cette petite partie rejetée comme Paul, des siens, a apporté l'évangile à d'autres nations pour que l'église de Rome puisse se fonder, pour que l'église d'Éphèse puisse se fonder, pour que l'église de Réveil à Bienne puisse se fonder. Tout ça a commencé avec ce petit noyau des Juifs. Et parmi les non-Juifs, non pas la majorité, juste une minorité, ont accepté. Et Paul dit que c'est par cette minorité, le rôle du chrétien face à Israël, c'est de rendre Israël jaloux. Voilà. Donc l'évangile est venu, rejeté, renvoyé vers les autres, rejeté aussi, pour renvoyer Israël pour qu'ensuite tout le monde puisse être sauvé. Vous avez compris ? C'est compliqué. Je trouve ça très compliqué. Je ne comprends pas pourquoi comme ça. Eh bien, pour comprendre ça, il faut comprendre le pourquoi du peuple juif. Déjà, pourquoi un peuple élu ? Pourquoi choisir un peuple ? Est-ce que Dieu a des favoris ? Est-ce qu'il a des préférés ? Vous pensez ? J'ai 3 enfants, est-ce que j'ai une préférée ? Oui, mais je ne vous dirai pas lequel. Pourquoi un peuple élu ? Eh bien, si on revient au tout début, à la genèse du peuple juif, on peut comprendre que Dieu n'a pas choisi le peuple juif pour le salut, mais pour le service. Et pour être, et c'est une phrase qui revient dans les textes juifs, être or hagoïm. Vous pouvez répéter avec moi ? Or hagoïm, une lumière parmi les nations. Et on devait être un exemple. L'idée, c'était que les nations, le monde entier, étaient en ténèbres. Donc Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'on était le plus grand, mais le plus petit des peuples. Le moindre des peuples. On était un peuple en esclavage et Dieu a eu pitié de nous. Il nous a choisis par compassion, par amour. Et il a choisi un petit peuple, le plus petit des peuples. Et Dieu travaille ainsi. Il choisit les choses petites pour confondre les grandes. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Pourquoi ? Pour que la gloire lui revienne. Et donc si Dieu n'a pas choisi le peuple juif pour ce que c'est que le peuple juif, pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple juif ? Par amour pour le monde. Dieu a choisi les juifs parce qu'il voulait sauver les nations. Dieu a fait de ce peuple juif un peuple élu parce qu'il aimait les Suisses. Parce qu'il aimait, il faut le dire, les Français, oui, même les Français, les Américains. Et aujourd'hui, j'étais dans une conférence de missionnaires et j'ai rencontré un Chinois qui venait direct de Chine, qui chaque matin, et j'étais le premier juif qu'il a rencontré de sa vie. Et pourtant, chaque matin, il prie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Incroyable. Grâce à ce rejet, quelque part, grâce à cette minorité, ce reste, selon l'élection de la grâce, a été chassé vers les nations. Et c'est merveilleux ça. Mais maintenant, il y a une responsabilité sur les chrétiens, face à Israël, face au peuple juif. Ça, c'est de le rendre jaloux. Comprenez ? Moi, non. Comment est-ce possible ? Alors déjà, premièrement, la première fois que j'ai lu ça, je ne veux jamais vous dire que j'ai rigolé. Est-ce que vous savez ce que c'est que la jalousie ? J'ai des enfants, donc je suis un expert en jalousie. Jalousie veut dire, j'ai quelque chose, on est dans la route pour les Alpes depuis Paris, on a 3 enfants dans la bagnole, on a 7 heures de route, et il y a un enfant qui a quelque chose, et tous les 2 autres le veulent, et vont rendre la vie misérable de tout le monde dans la voiture pendant 7 heures jusqu'à ce qu'elle ait cette chose. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Ce que toi, tu as, j'ai avec ce t-shirt, avec toutes mes tripes, je veux ce t-shirt. Et tu vas me la donner à la fin du culte, frère. C'était pas une blague, je ne rigolais pas. Donc, ça veut dire, clairement, ce que le texte dit, que l'Église, les nations, les non-juifs, ont quelque chose que les juifs n'ont pas. Et qui va donner envie totale aux Juifs de l'avoir. Et c'est quoi ça ? Excusez-moi, mais si vous jouez avec des Juifs, vous jouez dans la cour des grands. Nous avons Albert Einstein. Nous avons l'une des plus grandes armées dans le monde. Nous avons des intérêts dans le real estate et la politique. Nous avons Steven Spielberg. Nous avons Woody Allen. Nous avons Patrick Bruel, bon sang. Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons pas? Eh bien, j'ai un ami qui s'appelle Ruben, qui est juif et qui travaillait dans un travail, et son collègue de travail était un jeune chrétien. Toujours souriant, toujours chantonnant un cantique au travail. Et il lui a confronté un jour et dit, « Pourquoi est-ce que tu es toujours si heureux ?» Et il lui a dit, « Parce que ton Messie vit dans mon cœur. » Et il a répondu tout de suite, « Qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur, mon Messie ?» Et il a été rendu provoqué à la jalousie. Ma femme est juive aussi, elle se souvient la première fois qu'elle a rencontré des chrétiens. Ma femme vient d'un milieu aisé et elle a rencontré au lycée la fille d'un pasteur qui était issue d'un milieu qui était milieu pauvre, tout simplement. Mais elle se souvient qu'elle ne voulait que être dans la famille, chez eux. Elle disait qu'il y avait quelque chose. Elle se souvient encore aujourd'hui avoir pensé ceci, je veux ça pour ma famille. Elle qui a grandi avec tout, lui manquait quelque chose, elle dit, je veux ça pour ma famille. Elle ne savait pas ce que c'était à l'époque, aujourd'hui elle sait que c'était la paix, l'amour, le respect les uns pour les autres, la présence de Dieu. Jaloux parce que vous êtes en relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu que nous ne connaissons pas. Jaloux parce que vous avez un lien avec la parole de Dieu, ce trésor. Jaloux parce que la lumière du monde brille dans vos cœurs. Alors, ce n'est pas juste du blabla, hein. Ce n'est pas juste des belles paroles. Juif pour Jésus a des centres de missionnaires un peu partout dans le monde, dans une vingtaine de pays, et on connaît des milliers de Juifs croyant en Jésus. Donc on a décidé de faire un sondage de tous ces Juifs messianiques que nous connaissons dans le monde, en Afrique du Sud, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Et l'une des questions sur le sondage était le suivant, comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? 92% des Juifs messianiques connaissent le Seigneur grâce à un ami chrétien non-juif. 92%, ce n'est pas juste du blabla, c'est la réalité. Et l'apôtre dit, je glorifie mon ministère parmi les païens parce que je comprends. Je glorifie, et moi je glorifie mon ministère ce matin, et comme j'ai dit ce matin, je suis content de pouvoir parler sur ce sujet. Et moi je suis éternellement reconnaissant envers vous, envers un homme non-juif qui a partagé l'évangile avec moi sur un avion, avec les amis chrétiens de mon épouse, parce que c'est grâce à vous, à travers vous, que moi, ma femme, ma famille, ma communauté, mon peuple va connaître le Seigneur. Et j'aimerais vous bénir pour cela. À la fin de ce passage, il dit, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que, imaginez, juste pour un moment, Paul utilise son imagination, si un petit groupe, on avait dit combien? 12, 120, 500, 3000, quelques milliers. Quand on compte les milliards dans le monde, si un petit groupe a pu chambouler le monde pour qu'aujourd'hui des gens dans des îles lointaines connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, connaissent la Torah sans avoir rencontré un juif de leur vie, imaginez ce qui va se passer quand tout le peuple vient au Seigneur, quand tous les Einstein viennent au Seigneur, et les Steven Spielberg avec leurs dons de communication. Et oui, Patrick Bruel, pourquoi pas? Je veux qu'il devienne chrétien et qu'il dirige la louange dans mon église. Pourquoi pas? Imaginez donc ce qui va se passer. Paul dit, c'est Techiat HaMetim, la vie d'entre les morts, la résurrection, ce jour J où le Messie reviendra, parce qu'Israël sera finalement aligné avec la volonté de Dieu pour leur vie, d'être cette lumière parmi le monde. Donc, voici la situation, on comprend. Si jamais vous voyez que votre réalité, vous fait douter, n'oubliez pas les promesses de Dieu. C'est ce que l'Église de Rome avait fait. N'oubliez pas les promesses de Dieu. La leçon d'Israël et l'Église, c'est aussi la leçon, il y a une petite phrase qu'il ne faut pas louper, qu'il a dit au tout début, « Dieu n'a pas connu son peuple, qu'il a connu d'avance. » Dieu savait au tout début, qu'Israël allait lui être infidèle. C'est terrible ça. Si on a épousé quelqu'un, on savait d'avance qu'elle allait être infidèle, qu'est-ce que vous aurez fait vous? Mais pas Dieu. Merci Tatiana, c'est vrai. Mais Dieu est fidèle quand nous sommes infidèles. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, peu importe qui nous sommes ou les actes. Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde. Si nous doutons, tournons vers la parole de Dieu pour nous rappeler les promesses, même si la réalité ne semble pas conformer à ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Il nous faut remettre en cause la réalité qu'on voit et non pas la réalité de la parole de Dieu. C'est un peu un monde à l'envers, non? Vous ne croyez pas? Que la parole est venue au peuple juif, mais le peuple juif n'a pas été fidèle. L'évangile, le Messie est venu au peuple juif. Mais la majeure partie l'ont rejeté. Une petite l'a accepté pour pouvoir l'annoncer parmi les nations. Ou aussi une petite l'a accepté. Et cette petite va rendre Israël jaloux, et on voit déjà les premiers fruits de ça. Et maintenant, une fois que tout Israël sera rentré, le monde entier entendra l'évangile. C'est un peu à l'envers, je dois admettre. Mais vous savez, Dieu est un peu un Dieu à l'envers. Parce que dans le royaume des cieux, si, je ne sais pas, vous êtes de nationalité suisse ou américain ou français, il vous faut une nouvelle nationalité, il faut une nouvelle naissance pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas quel âge vous avez, j'aurai 50 ans cette année. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir un enfant. Dans le royaume des cieux, les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. Et si vous voulez conserver votre vie, il faut la gagner, il faut la perdre, accepter de la perdre pour la cause du Christ. L'apôtre, comme je dis, je suis convaincu, il est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, et il termine ce passage avec les mots que je vais terminer ce message. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Elohei Avraham, Yitzhak et Yaakov, aide-nous quand nous oublions nos promesses, les promesses que tu as faites envers nous, même quand la réalité autour de nous ne la reflète pas. Seigneur, donne-nous à nous rappeler ce que tu as fait pour nous, toi qui es fidèle envers nous, pour que nous puissions avoir la pitié envers ceux qui ne te connaissent pas. Et finalement, Seigneur, aide-nous de témoigner, de rendre autour de nous, juifs et non-juifs, jaloux, parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, Seigneur. Et ça, c'est la lumière du Messie à l'intérieur. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes des petits. Ceci est une petite église, mais nous savons que tu prends joie à choisir des petites choses, que tu ne méprises pas les petits commencements, les petits débuts, et tu choisis les choses faibles pour confondre les forts, les choses folles pour confondre les sages. Au nom de Jésus, amen. J'espère, cher ami, que vous allez être inspiré de soutenir et être un ami d'Israël et du peuple juif, et c'est pour ça que vous avez reçu une carte pour garder le contact, et si vous la remplissez, vous me laissez à la table, je vous enverrai notre lettre de nouvelles, nos lettres de prière, et on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe. Si vous voulez comprendre un peu plus sur le judaïsme, un livre excellent écrit par un pasteur et un juif messianique qui est parti avec le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un ici a rencontré le pasteur Jacques Guggenheim. Ça vous dit quelque chose, Jacques Guggenheim? En tout cas, il est parti avec le Seigneur l'année dernière et ce livre, il a écrit « Le judaïsme, un regard chrétien ». Sinon, le livre écrit par le fondateur de Juifs pour Jésus, Yeshua, ce juif que l'on appelle Jésus. C'est un livre de prophétie messianique. Mais je sais que vous connaissez très bien la Bible, donc peut-être vous n'avez pas besoin. Mais je vais quand même faire un test. Hein? Ok. Attends. Ah oui, c'est ça. Okay. Qui est le prophète qui a annoncé la date de la venue du Messie? Troisième? Daniel? Quelqu'un dit d'autre chose? Qui est le prophète qui a annoncé la date de la venue du Messie? Ésaïe, quelqu'un dit? Quelqu'un d'autre? Oh. Jérémie? Je vais regarder. Oh, la réponse vous coûtera 10 francs. C'est dans le livre. Un livre de témoignages. Vous voulez savoir comment les Juifs viennent à Jésus? Eh bien, ils ont découvert leur Messie. Un livre de 17 témoignages, et c'est un livre, merci Seigneur, que nous avons produit avec la Maison de la Bible, mais qui a eu un certain succès, et même en France en tout cas, a été pris par la FNAC, et a été mis dans les rayons judaïsme, dans les FNAC en France, donc ça c'est formidable. Et il y a d'autres choses sur la table, hein, mais surtout n'oubliez pas la carte de me la remettre, et finalement un disque de musique juive messianique. Vous savez ce que c'est que la disque de musique juive messianique? C'est la musique juive avec les paroles de l'évangile. Donc ça vous donne envie de pleurer, ça vous donne envie de danser, ça vous donne envie de faire les deux en même temps. Voilà, merci de ce temps ensemble. Tatiana va passer pour la Sainte Cène. Je sais que c'est un moment solennel de la Sainte Cène. J'aimerais juste dire un mot par rapport à ça. C'est que l'apôtre dit qu'il ne faut pas prendre la Sainte Cène légèrement. Il faut la prendre en connaissance de cause. Tu vois. Il invite que chacun s'examine. C'est le moment où on doit prendre connaissance ou se regarder dans le miroir. Et beaucoup de gens, sachant que c'est un moment solennel et important, disent « bon, ben, je ne suis pas prêt, je laisse passer ». Eh bien, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que c'est une invitation. Le but, que c'est un moment de grâce. Et l'apôtre essaie de nous dire, ne laissez pas passer ce moment de grâce, de réconciliation et de pardon. Donc peut-être un peu de silence avant que Tatiana ne vienne.